carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Guy de Rougemont, déambulation dans la ville. Dans l'émission qui va suivre, vous entendrez le peintre et designer Guy de Rougemont, membre de la section peinture de l'Académie des Beaux-Arts, prononcer une communication, un peintre dans la jungle des villes, dans laquelle il décrit les relations qui peuvent exister entre un plasticien et la ville. Dans son œuvre, il a toujours favorisé les arts dans la ville. Découvrez une urbanité inattendue en lignes serpentines et colorées, telle qu'il l'a présentée à ses confrères lors d'une séance de l'Académie avec un magnifique diaporama qui accompagne sa voix. C'était le 12 janvier 2012.
Je suis moi et mes circonstances. C'était le titre du déroulé des photos. Et c'est une formule qui est devenue une expression populaire du philosophe espagnol Ortega y Gasset. Et donc elle va être illustrée par un déroulé d'images muettes, sans chronologie ni légende, et qui sont un bref aperçu de mes réalisations de peintre depuis 50 ans. Et le deuxième intitulé est « Un peintre dans la jungle des villes ». Et c'est le titre du texte que je vais lire simultanément à la projection. Un peintre dans la jungle des villes. Sous cet intitulé, dont la référence à Brecht ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt, je vais tenter de décrire de manière toute subjective les relations qui peuvent exister entre un plasticien et la ville. Je suis né à la ville, j'aime la ville, et dans ma relation à la ville, il y a de la séduction, de la passion et de la fascination. La ville a une incroyable capacité d'absorption. Elle est cannibale, boulimique, mais elle est aussi fragile et sensuelle. Sans oublier que la ville est œuvre à rapprocher de l'œuvre d'art. C'est une production et reproduction d'êtres humains par des êtres humains, plus qu'une simple production d'objets. Il s'agit de voir comment le peintre qui a choisi d'être et de s'exprimer dans et avec la ville va s'en sortir. D'un côté, le philosophe Henri Lefebvre prédit que l'avenir de l'art ne sera pas artistique, mais qu'il sera urbain. Et de l'autre, Elie Faure, en écrivant sur la relation entre l'artiste et le social, nous dit « quand l'homme cherche l'homme et ne le trouve pas, les sociologues interviennent et se tournent vers l'artiste ». Je propose une déambulation dans la ville autour de 6 de mes réalisations, sans ordre chronologique ni géographique, mais selon les modes de pénétration de la ville adoptés lors de l'élaboration de chacune de ces interventions plastiques. Ces 6 réalisations ne sont en rien des modèles, mais elles sont mon vécu, ma relation à l'urbain et aux instances qui président aux destinées de la ville, politique, financière, technique, artistique, sociale. Il sera donc question de se glisser ou de s'insinuer dans la ville, pour l'instant d'après, la dérouter par l'ambiguïté de l'intrusion, mais un peu plus loin la dominer, tout en sachant le moment venu, lui donner une fête et enfin la séduire peut-être. Ce qui m'a toujours fasciné dans la ville, c'est combien la nature qui en est chassée est prête à tout moment à la réinvestir, comme dans les lieux les plus minéraux, les herbes folâtres et les fleurs s'épanouissent. Quoi de plus distrayant que de voir un frêle végétal soulever l'asphalte poli comme un miroir d'un coin de rue. Petit monde dans le grand, résistance à l'ordre imposé, rares sont les citadins qui devinent que c'est précisément ici, dans ces imperfections, dans ces recoins abandonnés, ces interstices, qu'il est peut-être possible de pénétrer la ville. Ce n'est pas moi qui méditerai sur ce qu'il advient de la forme d'une ville, disait André Breton, même de la vraie ville distraite et abstraite, de celle que j'habite par la force d'un élément, qui serait à ma pensée ce que l'air passe pour être à la vie. Sans aucun regret à cette heure, je la vois devenir autre et même fuir, elle glisse, elle brûle, elle sombre dans le frisson d'herbes folles. C'est selon une reptation que je me suis insinué entre les lourdes dalles de granit du parvis Bellechasse devant l'entrée principale du musée d'Orsay en inscrivant au seuil d'un musée consacré au seul XIXe siècle les signes premiers de toutes les cultures et de tous les temps pour descendre dans la profondeur de ce qui est à tout le monde afin de proposer un spectacle propre au renouvellement de la sensibilité du visiteur. Mon intention était qu'autant arrêter précède le mouvement de l'imaginaire de chacun, qu'au déplacement des pieds s'oppose l'immobilité des granites et des marbres de ce vestibule à ciel ouvert. Pour tenter de faire comprendre que la curiosité du passé ne saurait être satisfaite sans l'observation du présent, ou, comme le disait Walter Benjamin, le passé n'a d'existence, de réalité, que dans le présent où il se constitue, comme tel, et qui en lui se connaît. De cette réalisation, je retire un certain plaisir, et un fort déplaisir. Le plaisir étant celui d'être présent dans ce lieu éminemment urbain, au cœur de la ville, et d'être ainsi une réponse à la question de savoir si l'art contemporain a droit de citer à proximité des témoignages du passé. Il faudrait savoir si la création artistique contemporaine est réservée à la périphérie des centres historiques et si ceux-ci sont muséifiés et à tout jamais fermés au dialogue historique. D'avoir ainsi triomphé des habituelles méfiances, et le mérite en revient à l'équipe de l'établissement public d'Orsay, me donne une certaine satisfaction qui provient également de la possible inscription de cette réalisation dans le monumental. Lors d'un colloque organisé en 1985 à Royaumont par l'association Ville et Projet, à la question que me posait l'architecte Huy Debrault de savoir si je considérais comme monumental mon intervention au ministère des Finances, il s'agit du seul des halls d'entrée des bâtiments A et C, j'ai répondu par l'affirmative, car dans les siècles à venir, une fois les bâtiments détruits, ce sera bien par les sols que les archéologues pourront reconstituer ce qu'ils étaient. Pour ce qui est de mon déplaisir concernant le parvis Bellechasse, il ne vient pas de ce que sa qualité est ignorée par la plupart des visiteurs, mais bien par le trop grand soin que ceux-ci mettent à le recouvrir de chewing-gum. À cela s'ajoute que les marbres ont été hachés menus par le passage d'engins de levage lourds et qu'une restauration demandée ne vient pas. Autre exemple d'une réalisation fonctionnant sur le mode de l'insinuation, de la tranquille subversion, c'est le traitement du sol de la salle des billets de la station du RER de Marne-la-Vallée-Mont-d'Est. Il s'agit d'un tapis de grès émaillé au tracé géométrique. Comme le suggère Edgar Poe, dans sa philosophie de l'ameublement, le tapis, c'est l'âme de l'appartement. Et il y avait de cela dans mes intentions, lors de l'élaboration du projet, c'est-à-dire de projeter au sol d'un lieu public ce qu'on retrouve habituellement dans un intérieur. Jouer de l'effet de surprise par la reconnaissance, tout en donnant dans ce lieu de passage intensif à ceux qui s'y donnent rendez-vous, la digression qui trompe l'attente. Ces deux réalisations horizontales viennent occuper dans la ville des surfaces toujours parfaitement réglées techniquement, mais abandonnées à cette seule recherche de l'efficacité. Quand on réalise combien de citadins marchent en se regardant les pieds, je pense qu'il serait intéressant de leur offrir un autre spectacle, ne serait-ce que de les distraire des préoccupations qui leur font baisser les yeux, à moins que ce ne soit la crainte de glisser sur la fiente canine. On vient à la proposition d'aborder la ville sur le mode de l'ambiguïté, un peu comme on vient de le voir pour le sol du RER, mais cette fois-ci dans une monumentalité verticale. Il est question de la fontaine monumentale de Belfort, commandée par les villes, soit un programme de cette ville, cette fontaine. Diderot, dans un mémoire contenant le projet d'une pompe publique pour fournir de l'eau de Seine à la ville de Paris, avoue que les immondices, les sédiments, la stagnation inévitable des eaux dans les bassins, l'inconstance des petites fontaines et leurs disettes dans les temps de sécheresse le dégoûtent. Partant de cette remarque, après avoir été maintes fois désolé par le spectacle de bassins dépotoirs à vieux papier et autres tickets de métro, j'ai imaginé cette fontaine sans bassin, pas de miroir, mais aussi de faire en sorte que lorsqu'elle n'est pas en nous, rien n'indique que c'est une fontaine. Présent très lourdement dans un environnement architectural disparate et médiocre, les neuf cylindres, composés de quatre marbres répartis selon des strates horizontaux de hauteur variable, dressent leurs 4 mètres de haut sur un diamètre de 50 cm selon une stricte symétrie sur une base carrée de 10 mètres de côté en pierre volcanique. 4 tables circulaires à hauteur de siège complètent la composition sculpturale. Impressionnante par sa majestueuse solennité, cette étrange occupation de l'espace confère soudain à ce carrefour très animé de rues commerçantes une grandeur et une dignité qui contrastent avec les étalages du vendre à tout prix, les enseignes racoleuses et les néons clignotants. Si effectivement la vertu de l'art est d'établir une connexion entre le monde matériel et le monde mental, je pense, avec Duvigneau, que l'imagination artistique est un pari sur la capacité de l'espèce humaine à inventer des relations nouvelles et à éprouver des émotions inconnues. Le fait de monumentaliser ce lieu a provoqué la venue de visiteurs et de touristes qui a eu pour effet de modifier le comportement des commerçants voisins quant à la tenue de leur devanture, et cela me fait me souvenir de ma proposition d'échanger Saint-Marc et le palais des Doges avec le Moulineau Stucchi afin d'historiciser la Giudecca lors d'un concours d'idées internationales lancé en 1975 par la Biennale de Venise. Mais revenons à Belfort, et n'exagérons pas, car si effectivement il y a de la part des Rivelins une certaine fierté à posséder ce monument, il n'en a pas toujours été ainsi, car la circulation de l'eau devant se faire selon une trajectoire horizontale en partie haute des fûts de marbre, la mise au point particulièrement délicate ne s'est pas faite sans mal, et le moindre courant d'air venant dévier la trajectoire des jets, ceux-ci, ne trouvant plus le réceptacle prévu, allait s'écraser sur les vitrines ou vaporiser la terrasse du café proche. Voilà que ce digne monument crachait à la figure des chalands. C'en était trop pour les arroser, et du côté de la mairie, les plaintes arrivèrent. Bien qu'extrêmement patients, les élus ont souhaité un autre fonctionnement de la fontaine. Et aujourd'hui, l'eau ruisselle en permanence le long des fûts, conférant une belle vivacité aux quatre couleurs de marbre. J'ai obtenu, lors de l'inauguration, que le premier système de jet soit maintenu et utilisé à certaines occasions, afin que la fontaine puisse encore éructer. Que sous l'ordre marmoréen jaillisse ce désordre de l'eau, métaphore de ce double tropisme, mais que l'urbanité urbaine normalise inexorablement. J'avais imaginé pouvoir jouer de l'ambiguïté créée par les deux aspects de la fontaine, celui strict de sa construction opposé à celui ludique de la circulation de l'eau. Mais la technique n'ayant pas été maîtrisée, le vieux rêve de défier la gravité, dans les deux sens du mot, s'est brisé sur la margelle du conformisme. À propos du ludique, je pense que cette dimension du jeu, qui selon Henri Lefebvre est valeur suprême, dépassant en les rassemblant l'usage et l'échange, est une composante nécessaire de la relation de l'artiste à la ville. Mettre l'appropriation au-dessus de la domination, relève de l'espace du ludique, espace qui coexiste entre ceux de l'échange et de la circulation, du politique et du culturel. Nous vivons à l'intérieur d'un ensemble de relations qui définissent des emplacements irréductibles les uns aux autres et absolument non superposables. Mais ce qui m'intéresse, ce sont parmi tous ces emplacements, certains d'entre eux qui ont la curieuse propriété d'être en rapport avec tous les autres emplacements, mais sur un mode tel qu'ils suspendent, neutralisent ou inversent l'ensemble des rapports qui se trouvent par eux désignés, reflétés ou réfléchis, comme l'écrit Michel Foucault. L'espace ludique est l'un de ces emplacements magiques indispensables à la compréhension de la création artistique dans ce que celle-ci peut avoir d'irrationnel, d'onirique, de critique, de mystérieux. Que veut dire Henri Lefebvre lorsqu'il écrit que l'art sera urbain ? Pour lui, cela ne signifie pas du tout enjoliver l'espace urbain avec des objets d'art. Cela signifie que les temps, espaces, deviennent œuvres d'art, que l'art passé se reconsidère comme source et modèle d'appropriation de l'espace et du temps. En un mot, l'art de vivre dans la ville comme œuvre d'art. La réalisation suivante participe d'un mode de pénétration dans la ville dont la symbolique n'échappera à personne. Nous sommes dans la situation d'une commande municipale et selon les vœux de M. le maire, il fallait marquer les entrées de sa ville afin que celle-ci ne soit plus considérée comme le faubourg de la grande ville voisine. Il est ici question d'une sculpture cadastrale, d'un bornage, d'une balise. C'était à Villeurbanne, faubourg de Lyon, sur la place Albert Thomas. La place qui n'en est pas une, mais bien plutôt un carrefour, avec passage de tramway et circulation intense, se compose à la périphérie de son cercle de maisons de 3 à 4 étages qui relèvent plus de la construction que de l'architecture. Le propos était de donner un centre à ce confluent de 5 voies, tout en dominant l'environnement immédiat, afin d'offrir aux vues lointaines sur les axes d'approche une possibilité de repérage. Et Georges Perec écrit qu'un espace ne lui est jamais donné, qu'il lui faut le marquer, le repérer, et que vivre, c'est passer d'un espace à un autre en essayant le plus possible de ne pas se cogner. La proposition consiste en un cylindre de 10 mètres de haut et de 1 mètre de diamètre en acier laqué, reposant sur une base de 3 marches de granit entourée d'une corolle en 4 couleurs de basaltine, joliment découpée comme un col de dentelle que l'on devine à peine. C'est aussi la satisfaction de l'artiste que d'apporter à des détails peu visibles un soin particulier. Pour le peintre, cela vient de sa pratique qui veut qu'il passe un temps infini à modifier tel détail ou qu'il s'acharne à reprendre tel défaut qui ne compteront point, c'est-à-dire pas, dans la vision globale de l'œuvre, mais qui sont peut-être le lieu de l'expression de la plus extrême, la plus étrange aussi, de la passion à vouloir s'exprimer. Ici, nous pouvons nous poser la question de la dimension, c'est-à-dire des qualités volumétriques d'un objet ou de celles d'intensité colorée ou de surface d'une œuvre plane dans un contexte urbain. Une certaine enflure, un gigantisme semblerait être au goût du jour. Cela revient régulièrement à travers l'histoire des civilisations et je ne suis pas certain qu'il faille faire grand pour l'être et de penser que d'être plus grand que l'espace à occuper fait qu'on le domine. Mon expérience sur 30 km de l'autoroute de l'Est me prouve que l'on maîtrise ce genre d'espace beaucoup plus par de petits événements, souvent répétés, que par de grands coups d'éclat dont les temps de franchissement sont brefs. À la question posée à Tony Smith, sculpteur minimaliste, de savoir pourquoi il n'avait pas fait telle sculpture plus grande, il a répondu qu'il ne faisait pas un monument. Et à celle de savoir pourquoi ne pas l'avoir faite plus petite, il a répondu qu'il ne faisait pas un objet. Entre le monument et l'objet, il y a cette mesure qui ne sera pas forcément celle de l'harmonie parfaite avec l'environnement, mais bien plutôt celle qui convient pour faire entrer en résonance l'œuvre et son voisinage. Il est vrai que le cylindre de la place Albert Thomas, tout irradiant de sa forte polychromie et de sa belle taille, a commencé par entrer en vibration avec la population du quartier de manière négative, et devenant d'un seul coup le paratonnerre de la municipalité, ou comme le dit Artaud, de ce que doit être une création digne de ce nom, c'est-à-dire le lieu d'ancrage de toutes les colères errantes de l'époque. Tourné en dérision, ce cylindre est devenu le totem de M. le maire. Aujourd'hui, le coiffeur du quartier en a fait son enseigne. Le pâtissier a créé une confiserie à son image. Oh, colonne de la victoire, dorée comme un biscuit glacé par le sucre des jours enfantins. Et cette grande érection de couleurs n'est plus aujourd'hui que le membre immobile d'une société en mouvement et sémaphore paisible sert d'amère aux automobilistes égarés. Et cela nous amène à la relation de l'artiste et de la ville sur le mode de la fête. Inscription dans l'éphémère, de la théâtralisation ou du travestissement de lieux repérés qui ne seront plus jamais ce qu'ils sont pour ceux qui les ont connus autrement. La mise en couleur d'un musée de 1974 au Musée d'art moderne national et municipal de Paris relève de cette tentative de transformation dont Bernard Lamarche-Vadel pouvait écrire « Nous noterons simplement ici que le fait de la transformation du portique du Musée d'art moderne de Paris n'est pas un hasard dans la pensée de la pratique du peintre. Engendrer une autre surface de regard par le travestissement de l'un des symboles d'une culture exténuée, par le fait qu'elle n'a jamais voulu penser réellement les conditions matérielles, idéologiques et politiques de sa production, qu'elle n'a jamais voulu se penser qu'en termes de représentation de la culture. Il était en effet question, une fois remarqué que les colonnes du péristyle étaient des cylindres, c'est-à-dire identiques à la figure géométrique choisie comme support à mes expériences sur la couleur dans l'espace et autour du volume, de venir les gainer de couleurs vives afin que celles-ci s'écoulent hors des murs à l'intérieur desquels elles sont habituellement contenues. Donc, réponse à une interrogation d'ordre esthétique, mais aussi et surtout critique joyeuse, comme devait la nommer le peintre Eduardo Arroyo, d'une architecture lourde de la symbolique totalitaire de son époque et de sa fonction. Il est vrai que la dimension critique d'une œuvre s'exprimera plus librement et sa charge en sera plus forte dans une réalisation éphémère que lors d'une réalisation durable qui, elle, se doit de rester forte dans le temps et de ne pas s'épuiser au premier regard. Cette mise en couleur d'un musée se voulait également réflexion sur la couleur dans l'urbain. Et comment celle-ci, trop souvent mise en œuvre par les architectes eux-mêmes ou par des conseillers prônant le mimétisme avec l'environnement sur des bases d'observations pseudo-scientifiques, finit par se retourner contre eux. Fernand Léger avait imaginé des villes où les rues seraient jaunes, les avenues vertes et les places oranges. Et il est vrai que la couleur sous nos latitudes est plutôt interdite de citer. Ne serait-ce pas pourtant par là que le citadin aurait pris sur son environnement ? Le spectacle sans cesse renouvelé de l'affichage, sauvage ou organisé, les graffitis sont des événements colorés souvent heureux et sans lesquels la rue serait bien grise. Cet art populaire, urbain, éphémère que sont les graffitis est, comme le dit Norman Mailer, une opposition radicale à la techno-architecture et possède un redoutable pouvoir modificateur de l'environnement. J'en sais quelque chose dans la mesure où j'étais obligé de faire enlever ma sculpture du Quai Saint-Bernard temporairement à Paris à des fins de restauration tellement elle était couverte de hiéroglyphes d'aujourd'hui. Et même mes aventures dans la ville neuve de Grenoble, quartier de l'Arlequin, mais cette fois-ci, la dégradation a servi d'alibi à la politique culturelle de la nouvelle administration de la ville et l'enlèvement de l'œuvre s'est fait sans que j'en sois prévenu. Nous en venons à la sixième réalisation, peut-être aussi la moins urbaine dans la mesure où elle se situe en bordure de ville, dans ces espaces que l'architecte Henri Gaudin décrit comme plus ou moins poreux, aux frontières souvent délicates, participant à la fois de l'ordre urbain et du villageois. Il s'agit de la porte de Rion, à Rion en Auvergne, sur un îlot au milieu de la voie express qui contourne la ville à l'ouest, la porte de Rion, de ses 6 mètres de haut et 4 de large, en acier polychrome, s'ouvre à l'automobiliste en une invitation à visiter la ville. Sculpture construite par les signes premiers de notre géométrie, solide, trapue, aux couleurs vives, elle est dans sa tranquille évidence l'écho lointain et cependant proche du centre historique composé de beaux hôtels de style renaissance rustique aux portes ornées de sculptures taillées dans la noire pierre de Volvic. Elle est le trait d'union entre leur ville et son développement à l'ouest. Aussi, réalisations décrites, d'autres ont vu le jour en Équateur, à Taïwan et Porto Rico, en Corée du Sud, en Andorre, en Espagne et en France. La mise en situation monumentale dans la ville d'un choix esthétique impose une exigence principale, la justesse. Et comme le disait Pierre Reverdy, il n'y a pas d'autre vérité en art, pas plus d'ailleurs qu'en toute autre chose, que la justesse. Et cela concerne aussi bien la relation entre l'art et l'espace construit de la ville qu'entre l'art et l'espace social de la ville. Dans la première, il sera question de maintenir une belle fermeté plastique et dans la seconde, d'avoir une conscience historique, les deux permettant d'aborder avec conviction cette problématique contemporaine tout en sachant que l'œuvre se doit de porter en elle les ferments de résistance, de subversion, d'opposition, d'agression nécessaires à sa propre survie. Et plus qu'à Tarzan, ce peintre dans la jungle des villes ressemble au vagabond du film « Les temps modernes », glissant dans les rouages d'une machine sans être broyé et finissant par aller cueillir cette fleur de bitume pour l'offrir à sa dulcinée. Et je finirai par ce vers de Rimbaud, « À l'aurore, armé d'une ardente patience, nous entrerons ô splendide ville. »
Vous venez d'entendre une communication de Guy de Rougemont de l'Académie des Beaux-Arts, un peintre dans la jungle des villes. Une communication qu'il a prononcée devant ses confrères à l'Académie des Beaux-Arts le 12 janvier 2012.